Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session sur Domain Driven Design, et je dois vous montrer ça au préalable, c'est la norme, c'est la règle, c'est la loi. Donc voilà, tout le monde l'a vu? Merci à eux, pas c'est les sponsors apparemment, donc ils ont fait en sorte que la conférence ait lieu aujourd'hui. Donc merci, clac 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 clap. Ouais, voilà. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour lequel nous sommes réunis ici, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est Domain Driven Design, pour de vrai. Et donc, je vais commencer par une petite histoire en 2001. Qui était déjà dans notre métier en 2001? Non? Un petit quelques-uns? Ouais. En 2001, il y avait des innovations géniales, comme les patterns J2E. Ouais, c'était fabuleux. Alors, on parlait de DAO, on parlait de DTO, pour transférer les données, de DAO Factory. Oh là là, il y en avait plein, il y en avait plein. Et puis alors, heureusement, le salut est arrivé sous la forme d'un livre en 2003, un livre bleu qui s'appelait DDD. Et ce livre parlait de repository. Alors tous mes collègues et partout dans le monde, on a commencé à renommer les DAO en repository. Les génériques repository, parce qu'ils se ressemblent tous un petit peu. Et là, c'était pas mieux en fait. Est-ce que ça, c'était DDD? Absolument pas. C'est pas DDD du tout. Donc c'est quoi DDD en fait? Mais ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent être DDD. Les repositories, les agrégats et compagnie. C'est ce que vous avez en tête? Ou vous connaissez pas du tout DDD? Qui n'a aucune idée de ce qu'est DDD? Ah, fabuleux. Bon, comme ça, les a priori... Mais ça, c'est les a priori des fois que vous croiserez chez vos collègues. Donc, c'est quoi DDD? Ben, c'est ce qu'on va voir juste après la coupure pub. La coupure pub, c'est moi. Donc, je m'appelle Cyril, je suis développeur depuis pas mal de temps, Cyriux sur Twitter. Et donc, mon vrai nom, c'est Cyril Martraire. Je me définis toujours comme développeur et j'ai créé la communauté Paris Software Craftsmanship en 2011 et on se réunit toujours tous les mois. Entre 50 et 60 personnes chaque mois, pour parler de tout ce qui nous anime, comment être un meilleur pro, comment faire mieux des tests, comment mieux spécifier, comment parler avec le business, comment parler avec le management, comment gérer avec le management, etc. Je suis aussi cofondateur et associé de la société Arola, et chez Arola, on est fan de tous les trucs en DD. TDD, BDD, DDD. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le troisième DDD, le 3D. Et c'est quoi DDD? Je l'ai déjà dit, c'est un livre. C'est un livre fait par Eric Evans. C'est lui. Là, on le voit en train de faire son training. C'est un livre qui est structuré sous forme de patterns. Il y a plein de patterns à l'intérieur. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, bien sûr. Et c'est aussi un sujet qui intéresse surtout les développeurs seniors. Quand je dis senior, c'est, vous avez votre propre définition de senior, mais ça veut dire que quand on fait un sujet, une soirée DDD, par exemple, qui vient? Bon, il y a un étudiant qui s'est perdu, mais à part ça, il y a 5, 6, 7 ans d'expérience en général, 15 ans, et plusieurs 25 ans d'expérience même qui se pointent. Ça intéresse vraiment les vieux. Ceux qui ont essayé toutes les autres solutions, qui ont pensé que les frameworks seraient la solution à tous nos problèmes, qui ont cherché tout le framework miracle, qui ont conclu que ce n'était pas la solution à tous nos problèmes et qu'il fallait chercher autre chose, et qui se sont dit, et si je changeais ma façon de penser, ma façon de travailler? Et c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse, pourquoi pas à l'agile, bien sûr, parce que aujourd'hui c'est assimilé, mais, et bien sûr à DDD. DDD, c'est aussi un sujet qui est très respecté parmi tous les leaders d'opinion que vous entendez dans les conférences, mais c'est un sujet aussi qui est très très mal compris et galvaudé. C'est un sujet qui n'a pas besoin d'outillage, et c'est un sujet qui est surtout devenu connu par CQRS et aussi Event Sourcing, qui sont les thèmes techniques à l'intérieur qui sont plus populaires. Le technique est toujours plus populaire que le moins technique. Donc quand je donne des formations sur le sujet, c'est ma carte du monde, et on essaye de couvrir tout ça. Mais aujourd'hui, je vais m'appesantir surtout sur le plus important, c'est-à-dire les points essentiels, les piliers de Domain Driven Design. Et on va les voir sous forme d'exemple. Donc, ces points importants. Mais tout ça, c'est très abstrait. Oh, Cyril, tu nous ennuies avec tout ça. On veut des exemples. N'est-ce pas? Vous le voulez? Vous le criez, je veux des exemples. Des exemples, voilà, merci. Alors, les exemples, ça commence parce que DDD, ça parle de domaine. Le domaine, ça veut dire des experts métiers. Les experts métiers, si on travaille dans les soins dentaires ou dans la biologie, les experts métiers, c'est les gens avec des blouses comme ça, comme dans les pubs de dentifrice. En trading, ils s'habillent comme nous, en finance, en assurance, ils sont habillés comme vous, rassurez-vous. Mais ils connaissent très bien certains sujets. Et donc, on parle de métier. Et quand on parle avec eux, ils nous disent des trucs comme ça. Et il faudrait ajouter un code de discount au purchase. Ouais, c'est vrai que je parle toujours en anglais dans mes sujets. Mais alors, les développeurs écoutent cette phrase, « discount code to the purchase », et qu'est-ce que fait le développeur? Il dit « Ouais, mais tu veux dire le shopping cart ?»« Ouais, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. »« Ok, d'accord, bon, on va faire ça dans le code. » Et dans le code, on va l'ajouter comme un champ voucher dans la classe basket model. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? On m'a parlé d'un mot, moi je le comprends comme un autre, et mon code le parle encore comme un troisième mot. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de passer notre temps à tout traduire. On traduit d'une conversation, dans les meetings, dans les emails. On prend des mots et on doit les traduire dans le mot correspondant dans ma tête, dans mon code. C'est un gaspillage systématique. C'est aussi confusion as a service. La solution à ce problème, c'est de s'accorder sur le langage qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va penser délibérément aux mots qu'on utilise. On va perdre du temps à décider les mots qu'on utilise et à décider ce qu'ils veulent dire. Domain-driven design appelle ça le langage omniprésent, ubiquitous language, et ça veut dire que les mots doivent avoir un sens précis, non ambigu, et qu'on va parler ce langage du métier, avec des mots métiers, donc police d'assurance, contrat, indemnité, franchise, tout ça, c'est le langage du métier. C'est le langage qu'on va vouloir retrouver dans le code, bien sûr. Un exemple de langage omniprésent dans le métier bien connu des escaliers, c'est un métier qui est vieux, et donc c'est un métier qui a mûri avec beaucoup de vocabulaire très précis. On a des mots très précis, comme le mur, là c'est pas juste un mur, c'est le mur qui porte l'escalier, ça s'appelle un mur des chiffres. Les marches, vous voyez qu'il y a plein de marches différentes, ça c'est pas juste la marche numéro 1, c'est la marche de départ. Ah non, c'est pas comme les développeurs, c'est pas la marche 1 ou 0. la marche d'arrivée, la marche palière, la marche qui amène au palier. En fait, le vocabulaire est très précis, on parle, et le nez, là c'est pas juste le bord de la marche, c'est le nez de marche. Donc les métiers, ça c'est un truc intéressant, c'est que sur vos métiers, plus ils sont vieux, plus il y a un vocabulaire, et c'est à vous d'aller chercher le vocabulaire précis. Et donc des petites astuces, c'est que c'est mieux quand c'est prononçable, parmi tous les mots possibles, si vous avez le choix, mieux si c'est prononçable, moins d'abréviations, et facile à chercher dans Google. Par exemple, le langage de programmation qui s'appelle Go, il n'est pas facile à chercher dans Google. Ce qui est une honte pour un moteur de recherche. Et alors on parle de définition, mais définition c'est pas juste du vocabulaire, c'est aussi savoir ce que ça veut dire quand même. Alors quand on travaille sur le langage, l'outil le plus utile c'est le dictionnaire de synonymes, qu'on appelle en anglais un thesaurus, qui est donc un certain type de dinosaure, n'est-ce pas? Et là c'est une blague en fait, mais d'habitude personne ne la comprend, ça fait pas rire. C'est bon, vous l'avez? Ouais, c'est un synonyme en fait là, il fait... Ah ouais, et puis le thesaurus donne... Non, si, ouais. Donc, grâce au thesaurus, on arrive à avoir un langage, on arrive à trouver des meilleurs synonymes, à réfléchir sur le vocabulaire. Ça veut dire qu'on passe pas son temps seulement dans du code, on passe aussi son temps à parler avec des gens et savoir quels sont les mots qui restent, quels sont les mots qu'on essaye d'utiliser mais qui prennent pas. On va réfléchir à tout ça, il y a un aspect un peu social et marketing avec. D'ailleurs, le meilleur mot, c'est celui que tout le monde s'accorde à trouver le meilleur mot. Donc tout le monde parle le langage métier, et on le parle partout, même dans le code. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ouvre mon Eclipse, ou mon IntelliJ, ou mon Visual Studio, et je regarde toutes les classes qu'il y a. Et oh oh oh, ici, tiens, je suis dans le métier des gestions de flotte de véhicules. Ça se voit. J'ai du volume, j'ai des véhicules, j'ai de l'argent, j'ai des marchands, du tracking GPS, des cartes d'essence, des transactions de carte d'essence. Ah oui, en fait, je parle vraiment ici, je suis dans la partie carte d'essence. Ça tombe bien, c'est vrai que le package, je le disais, ça s'appelle Fuel Card Monitoring. Mon vocabulaire, c'est le vocabulaire du métier que je retrouve le plus possible dans mon code. Alors, il y a toujours peut-être une anomalie ou deux, mais notre boulot, c'est de minimiser les anomalies. Une façon de savoir si votre code parle vraiment votre métier, vous faites un word cloud dessus. Donc, c'est facile à faire, une sorte de grep en filtrant tous les keywords de votre langage, la ponctuation, les mots-clés du langage. Et si vous trouvez ça, c'est que votre métier, il parle en fait, ou bien c'est de la gestion de chaîne de texte, mais si c'est pas de la gestion de chaîne de texte, votre métier, il est perdu. On le voit pas bien dans votre code. En gros, le rapport signal-bruit est pas bon. Il y a surtout du bruit et un peu de signal. Si vous trouvez ça, c'est beaucoup mieux. Bon, ça, c'est le nom du projet, donc c'est le nom du package qui est partout. On devrait le filtrer aussi. Mais à part ça, on reconnaît tout le vocabulaire de notre métier. Là, je vois mon ubiquitous language. C'est clair? D'ailleurs, ça fait un test à faire. Vous avez envie de le faire quand vous allez retourner au travail demain. Ouais, j'ai envie d'essayer pour savoir où j'en suis. Ça, il n'y a pas beaucoup de métriques DDD, mais on pourrait en faire une métrique de DDD-itude. Ça, littéralement. Alors, c'est quoi un style de code DDD? Ben, on l'a déjà dit, c'est un style de code qui maximise le rapport signal sur le bruit. Et donc, pour ça, il y a plein d'astuces. déjà éviter tout ce qui est technical pollution, pollution technique. Déjà, donc vous séparez ce qui parle vraiment de technico-technique, base de données, middleware, API, REST, et la partie métier. Et donc vous séparez le métier dans sa zone métier, dans deux modules distincts, deux packages, deux namespaces. Et dans cette partie métier, interdit de rentrer tout ça. Tout ça, c'est des sources de bruit pur, même les loggers. Donc si vous avez une question, je vous expliquerai plus loin, plus tard, pourquoi, comment. J'ai pas le temps tout de suite. Et bien sûr, le nul fait partie du bruit. Surtout que nul, à chaque fois qu'il y a un nul qui traîne, il y a un if différent, nul partout. Ça, c'est du bruit partout, partout, partout. Donc il y a plein de patterns pour ça, mais ces patterns ne font pas forcément partie de DDD. C'est plutôt le comment faire pour le but. Le but, ce qui est important, c'est le but. Je veux que mon code raconte le métier littéralement sans pollution. Une boîte à outils classique, c'est les objets calisthéniques. Vous appliquez ça même sans réfléchir, ça va améliorer votre bruit et votre code, réduire le bruit, même sans savoir pourquoi ça marche. Ça marche. Gardez le pointeur et essayez aussi de... Prenez-le comme un challenge. J'essaye de respecter tout ça en même temps. Vous pouvez ajouter d'autres trucs en plus et ça rend votre code plus fun. Il sera plus simple en fait. Donc on veut parler de langage omniprésent partout. Partout, partout, partout. Et donc, là vous êtes en train de me dire, mais Cyril, tu viens vraiment d'appuyer le truc, tu as insisté là-dessus, ça veut dire que DDD, c'est surtout ça? Ouais. Ouais. J'ai un peu raté mon effet. Là. Et donc, c'était vraiment le résumé essentiel de DDD. Et donc, là-dessus, on peut arrêter ici. Et vous avez compris l'essentiel. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à acheter mon livre sur Linpub, qui parle de living documentation. Vous pouvez mettre le prix à zéro et ça fait monter les compteurs. Non, sérieusement, il est édité chez Addison Wesley. Mais je rigole, bien sûr, la présentation n'est pas finie. Mais si on avait juste ce temps-là, on aurait dépensé notre temps au mieux et on aurait dit l'essentiel. Voilà. Donc DDD, est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est pour toujours, dans tous les projets, dans tous les contextes? Bien sûr que non. Imaginons que je veuille faire un projet qui consiste à détecter des fraudes, par exemple de paiement de carte bleue, des choses comme ça. C'est un truc qui n'est pas évident à bien faire. Vous savez qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, il faut de l'intelligence. On risque de ne pas y arriver. Le risque, il est dans le métier lui-même, la détection de fraude. Il n'est pas dans le fait d'arriver à se connecter aux fournisseurs de paiement. Dans ce cas-là, il est probable que DDD soit bien indiqué. La complexité, le risque, la valeur est dans le métier. Maintenant, si vous avez une fonctionnalité quelconque à faire et qu'elle est différenciatrice, ça veut dire qu'elle va positionner votre entreprise mieux par rapport à ses concurrents, si c'est dans le domaine qu'il y a cette valeur, alors clairement, DDD est utile et indiqué dans ce contexte. Donc, on va appliquer DDD. À l'inverse, si vous voulez faire une to-do list super jolie dans l'App Store, avec une super UX, a priori, comme ça, si c'est vraiment l'aiguille qui va faire la différence, ça ne sert à rien du tout d'investir et de passer du temps dans DDD, avec tous les soins que DDD suggère. Et à l'inverse, je vous conseille de prendre Ruby on Rails ou un truc super productif, Meteor, je ne sais pas, un truc direct, qui va vous faire votre écran, votre base, tout ça, one-to-one, aller super vite, faire votre levée de fonds, et plus tard, vous aurez des problèmes riches qui auront besoin de DDD. Donc en fait, DDD, le meilleur endroit pour s'en servir, c'est sur le cœur de métier. Le cœur de métier qui fait la différence pour votre entreprise. Ou le cœur de métier dans lequel tout ce que vous avez mieux compris que les autres vous donne un avantage dans la façon dont le métier fonctionne. Pour bien faire ça, même quand on est développeur, il faut s'intéresser à notre métier. C'est une question de curiosité. Ça paraît bizarre. Moi, je suis développeur, j'aime développer les langages, les trucs ésotériques, les trucs compliqués. Et je vais m'intéresser à la finance ou à l'assurance ou à la comptabilité. Ouais, c'est le principe. Et on ne peut pas y échapper. Hein. DDD, sérieusement, sans curiosité, c'est même pas la peine. Donc si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Point. Arrêtez, mais vous pouvez sortir de la salle tout de suite. Il faut s'intéresser au métier. C'est un petit secret, d'ailleurs, chez les extrêmes programmistes programmeurs d'origine, qu'on s'intéresse à son métier. Les gens en parlent peu dans les conférences, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de leur demander, ils me confirment, oui, je rentre en immersion dans le métier. C'est pas forcément ma passion de ma vie, mais pendant cette année que je vais passer sur ce projet, je vais bien connaître tout ce qui parle de la chimie ou l'assemblage des composants des circuits imprimés sur un circuit imprimé, parce que c'est le business dans lequel je suis. Au quotidien, en fait, c'est pas si difficile de s'intéresser à un métier. Si on le regarde bien, il devient intéressant. Imaginons par exemple un développeur, chef de projet ou architecte technique, qui s'intéresse jusque-là à tout ce qui m'intéresse, c'est Java EE, les patterns de Java EE, tout ça, c'est génial. Et là, j'arrive, on est en finance, et je le fais, hey les gars, ça te dirait pas de t'intéresser aussi un peu à ton métier, la finance, les produits dérivés, les swaps, tout ça? C'est vachement cool en fait, tu sais, ça pourrait te plaire. Le temps passe, l'idée fait son chemin, il s'intéresse, oh ouais, c'est vrai que c'est sympa en fait, c'est complexe, il y a une logique geek, il y a des techniques aussi, c'est vrai, en tout cas la finance par exemple, c'est très geek. Il y a plein de trucs, il y a une logique interne et tout, c'est aussi passionnant que d'apprendre des choses de technique informatique. Donc on s'intéresse à notre métier, on est curieux, ça commence bien. Et maintenant, on va parler métier, et on va parler métier avec des grandes généralités. Non, je rigole, on va parler avec des exemples. Parce que c'est toujours bien des exemples, n'est-ce pas? Et l'art des exemples, vous le connaissez, ça s'appelle BDD. L'art de bien travailler avec des exemples, c'est Behavior Driven Development. Et non, c'est pas un art de testing, c'est un art de parler avec des exemples pour mieux se comprendre. Et donc, quand on utilise l'art de bien parler avec des exemples, on le fait à l'oral, dans des meetings, dans des conversations. On peut aussi ensuite le documenter sous forme de scénario texte. Et on va décrire ce que j'ai envie de faire, l'intention. Et ça, c'est ultra important. Si on ne le dit pas, les scénarios, ils manquent de contexte et on peut mal les interpréter. On décrit des exemples concrets. Donc ici, je suis dans ma gestion de flotte de véhicules. Le but du jeu, c'est de détecter les tricheurs parmi mes conducteurs. Dans des grandes flottes, c'est un sujet intéressant. Et donc, par exemple, prenons un exemple. Une transaction de carte d'essence avec plus de fuel que la taille du réservoir. Quand je vous dis ça, vous avez peut-être compris. Vous n'avez peut-être pas complètement compris. Regardons le scénario pour être sûr. Étant donné un réservoir qui a un réservoir de 48 litres, si un conducteur achète 52 litres avec ce véhicule le jour où il est associé à ce véhicule, alors une anomalie est levée qui dit « attention, c'est un truc bizarre ». Il y a une question à poser à quelqu'un. Dans le même ordre d'esprit, le véhicule est trop loin de la transaction d'essence. Si je vous dis juste ça, c'est pas forcément très clair. On est encore abstrait. Avec un scénario concret, j'ai fait un achat d'essence à côté de la tour Eiffel, mais mon véhicule était à 2 km plus loin, il y a un truc qui cloche. J'étais pas en fait réellement dans mon véhicule. Peut-être que j'étais en train d'acheter autre chose pour moi. Donc BDD, là je suis en train de vous parler de DDD, mais je suis aussi en train de vous parler de BDD parce que c'est le meilleur moyen de démarrer efficacement avec DDD. Commencer avec le BDD est le meilleur moyen de commencer avec le DDD. Si vous faites bien BDD, vous faites déjà du DDD, puisque vous faites attention au langage. Ici, vous avez le langage du métier partout. Et en plus, vous avez des exemples concrets à partir desquels vous allez construire votre code et votre domaine modèle, morceau par morceau, exactement comme on ferait aussi du TDD. Tous les DD se rejoignent, au final. Notez ici, d'ailleurs, que vous pouvez ensuite décrire aussi ce que vous avez compris du métier en champ libre, entre la narrative en haut et les scénarios en bas. Ici, c'est une zone de texte libre. Et les outils modernes peuvent vous tolérer de faire du markdown ici, donc en fait vous faites votre doc complète aussi là-dedans et vos specs sont entièrement dans vos feature files. C'est une bonne façon de faire. Donc c'est l'heure d'un petit chat, parce que dans toute bonne présentation il faut des petits chats. C'est pour se détendre. C'est bon? Vous avez votre dose de petits chats? Moi aussi. Donc, parmi les points importants de DDD, il y avait aussi modéliser en code. Modéliser en code, c'est clair? Non! Il nous faut des exemples! Des exemples! Donc, on reprend un exemple. Alors, il faut ajouter un nouveau discount mode. Et où est-ce que je mets ça? Ah, je sais, se dit le développeur. Je vais l'ajouter dans la classe MainController. De toute façon, on ne peut pas avoir faux. Hein. Tout va bien dans cette classe-là. Le problème, c'est qu'elle a beaucoup de champs, beaucoup de méthodes et beaucoup de lignes. Mais vous en avez une aussi. Hein. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment chez vous? Hein, c'est...
MISC Controller.
Ah, ça, c'est chouette. Comme Michelinios Controller. Le contrôleur de tout le reste, les trucs voilà. Qu'on n'a pas pris le soin de nommer. Oh là 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 là, la honte. Donc en fait, pourquoi ça? Parce qu'il y a un phénomène bien connu que Carlo Pescio, allez voir d'ailleurs, si vous aimez bien les trucs un peu physiques de software et tout, c'est assez ésotérique, si on va dire, mais c'est vachement intéressant. C'est lui qui a introduit cette métaphore de gravité de code. C'est une super métaphore. Vous savez que la gravité, comment ça marche? C'est la loi de Kepler, c'est les corps, les planètes s'attirent, plus elle est grosse, plus elle est lourde, plus elle attire ce qui passe autour. ça marche pareil avec votre code. Plus la classe est grosse, plus le module est gros, plus il va aspirer toutes les ajouts de fonctionnalités qui passent à proximité. Ça fait comme ça. Et ça rentre dedans. Et c'est de pire en pire, parce que plus il en attrape, plus il est gros, plus il est lourd, plus il attrape encore. C'est horrible. Alors ça, c'est une malédiction classique de tous les projets qui ont un peu de vécu. Donc ça vous parle, hein, ça c'est sûr, ça vous parle. Enfin, à moins d'être junior, ça vous parle. La solution à ça, c'est modéliser, c'est de réfléchir à comment ça devrait être. Il faut de l'énergie pour résister à la gravité. Il faut des boosts, il faut des moteurs de fusée même. Il faut des trucs costauds, il faut des moteurs d'ascenseur pour vous soulever. Il faut de l'énergie, et cette énergie, c'est de l'intelligence humaine, ça veut dire, c'est le travail du design en logiciel. Ce qu'on veut, c'est représenter ce qu'on a dans notre tête, le plus littéralement possible dans notre code, et ça n'arrive pas par hasard à cause de cette gravité. Et donc, il faut imaginer ce qui devrait être. Reprenons notre petite évolution, là. Ça parlait de discount. Et donc, le discount, bah, ça devrait, en toute logique, être dans la zone discounting. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas tout de suite. Peut-être qu'il faut l'introduire. C'est le moment de le créer. Peut-être qu'il y en a déjà, mais c'est mélangé dans le paiement. C'est peut-être le moment de le sortir pour en faire une zone discount et pas tout mélanger. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire du refactoring basé sur notre vision métier et sur notre compréhension du métier. Le refactoring, c'est pas que regarder des lignes et dire « Oh, elles sont presque pareilles, j'extrais ». C'est aussi se dire « Même les lignes ne sont pas du tout pareilles, mais le business qu'elles sont en train de faire est à peu près pareil ou parle de la même chose, donc je les extrais dans un truc qui parle de ce truc-là, dans la zone discounting, dans la zone paiement, billing, shipping, etc. » On fait donc du domain-driven refactoring. Ah, c'est intéressant ça. Compréhension métier, littéralement, ça se traduit dans des décisions de code. Donc la modélisation métier en pratique, ce n'est pas forcément des gros diagrammes UML. D'ailleurs, ce ne sera sans doute pas des gros diagrammes UML. Un diagramme aussi gros que ça, il est mauvais déjà, juste par le fait qu'il est gros. Beaucoup trop de fils, là, c'est trop chevelu. Un bon diagramme, il est tout petit, il a assez peu d'associations. 2 classes, 3 classes, ça suffit. Et comme il est petit, autant le faire sur un coin de table. Après, c'est votre code qui est la référence de ce qui est vraiment votre modélisation métier. Et donc, vous modélisez en Java, vous modélisez en C#. Ces langages sont assez efficaces pour le faire directement dans le langage. Quelques crowbars, même pas de crowbars, on le fait direct en code. Et si vous avez l'habitude de votre IDE, vous refactorez très très vite. Votre code est presque aussi rapide est sans doute plus rapide qu'un outil UML que vous ne savez même pas utiliser. Donc prenons l'exemple du métier des petits chats qui chantent. Ouais, c'est un métier comme un autre. Il y en a sans doute qui le font au Japon d'ailleurs. Et donc ce métier des petits chats qui chantent, si on le modélise, qu'est-ce qu'on raconte ? On a des concepts de petits chats, bien sûr, d'attitude. La rockstar attitude, c'est essentiel en rock. On a le concept de micro. Ah bah oui, il faut un micro, là on le voit bien. Il y a un concept de chanter. Il n'y a pas que des noms dans les concepts. Il y a des verbes, il y a des choses qui se passent. Il y a des capacités intangibles. Il y a le concept de playback. Pareil, ça ne se voit pas, mais il y a un concept de playback. Et c'est de la prise de notes qui est en texte, mais ce n'est pas juste du texte, c'est du code. Et le code, ce qui est génial, c'est que ça s'exécute. Et donc là, notre modélisation, ce n'est pas juste un bloc-notes, c'est un bloc-notes qu'on fait run et il nous fait des trucs dans le temps. Et là, il va cracher dans la console ou alors il va même chanter, si vous avez mis la synthèse vocale, il va faire miou miou miou. Et donc vous avez vraiment encodé votre compréhension métier dans votre code qui s'exécute et qui vérifie que vous avez bien compris. Et si ça ne fait pas ce que vous vouliez, si ça fait waf waf par exemple, eh ben, c'est que vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui est mal compris quelque part. Donc c'est un moyen de feedback aussi. Des exemples de modèles métiers, ils peuvent être aussi simples qu'un simple champ. Par exemple, si vous souhaitez modéliser la météo à Londres, DDD Borat, il nous a donné un exemple, parce que oui, il y a un Borat en DDD. Et par exemple, un champ final static boolean qui dit que est-ce qu'il va pleuvoir ? Oui, c'est un exemple de modèle. C'est sans doute le modèle le plus simple possible qui soit pour décrire la météo à Londres. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? Oui, c'est un modèle. C'est un modèle qui a un pouvoir prédictif, n'est-ce pas ? Comme tout bon modèle, il peut prédire. Et il sera toujours bon. Donc, la bonne modélisation, comment savoir si on a bien modélisé ? Bien sûr, vous retrouvez votre vocabulaire, mais vous retrouvez aussi comment ça se met en musique pour faire des choses. Un exemple pour savoir que c'est bien modélisé, c'est que vous lisez votre code et vous apprenez le métier en lisant le code. Vous apprenez la comptabilité en lisant le code de compta. Vous apprenez la physique en lisant un code qui fait de la physique. Alors je dis code, mais au sens large, donc les tests en font partie, bien sûr, et les tests, c'est super utile pour apprendre. Et vous pouvez changer un peu le test pour voir si ça a fait bien ce que vous avez imaginé qui changerait, et comme ça, vous constituez votre modèle mental. Donc, bien sûr, tout ça, c'est de la documentation, c'est l'objet de mon bouquin, justement. Donc, quand on parle de tout ça, Imaginez maintenant vous croisez des DSI. Les DSI, ils ont souvent des phrases de style. Vous avez déjà entendu des trucs comme ça dans les couloirs, dans les conférences, dans 01 informatique. On veut l'alignement avec l'IT sur le métier, nanana, nanana. Et d'habitude, vous dites, c'est bullshit. Moi aussi, j'ai dit ça longtemps. Mais en fait, quand on fait du DDD, on sait le faire et on le fait naturellement, on le fait tout le temps. On cherche à aligner. Imaginons que j'ai le métier, c'est comme ça que je le vois. Le métier, il est dans l'espace des problèmes. J'ai de la compta, de la livraison, de la facturation. Ça, c'est mes métiers. Ce que je voudrais, c'est avoir littéralement des modules de code logiciel et pourquoi pas des microservices qui seraient littéralement one-to-one alignés sur le métier. Là, c'est vrai que maintenant, ça devient même à la mode. Ça s'appelle, oui, une architecture microservice. Je veux l'alignement one-to-one. Eh bien oui, en fait, le DSI, je peux lui dire, oui, je sais comment le faire. Bon, ça reste tout ça encore un peu abstrait, fumeux peut-être. Des exemples, encore des exemples. Vous avez deux codes, vous avez du code et vous avez votre outil d'analyse de dépendance, parce que vous en utilisez un et vous raisonnez sérieusement à vos dépendances, vous dit que vous avez un cycle. Ça fait cycle. Ah bah oui, il y a une dépendance là et l'autre dépend de lui. Donc en fait, si vous voulez livrer, ben, il faut d'abord compiler ça, puis celui-là, puis recompiler celui-là, ou un truc comme ça. Bien sûr, c'est mal. Vous le savez que c'est mal. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est horrible. Alors on va, pour corriger, il faut couper une dépendance. Oui, mais laquelle ? Ah ah. Donc, il y a plein d'éditeurs de logiciels qui vous diront, on fait une matrice de dépendance et on regarde le côté qui est le plus facile. Nanana. Ça, c'est de la connerie. La vraie décision, c'est lequel fait plus de sens côté métier. Alors, peut-être que le métier, c'est pas, mais peut-être qu'il y a une conversation à avoir. En tout cas, là, on parle au métier et il nous dira, en toute logique, quand même, le prise de décision, c'est un peu plus stratégique, alors que ça, c'est plutôt tactique ou opérationnel. Donc, en général, le stratégique, c'est plutôt dépend du opérationnel et pas le contraire. Donc, ce serait plutôt descendant. Donc, on peut couper l'autre. Ah, c'est intéressant. Donc, une décision métier qui se traduit directement par un impact technique, une décision technique. Allez, vous commencez à sentir le refrain. En domaine driven design, on va autant que possible aller décider par rapport au métier les conséquences du code. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire que DDD, en DDD, le code est subordonné, le design du code est subordonné au métier et à la compréhension de notre métier. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, il reste à le faire, et pour ça, une boîte à outils, ça peut aider. Mais la boîte à outils commence à dépendre un peu aussi des langages qu'on a et un peu tout ça. Donc la boîte à outils, elle n'est pas aussi générale que tout ce qu'on vient de voir. La boîte à outils, c'est les patterns tactiques de DDD. Et comme les développeurs, souvent, on aime bien une sorte de fétichisme sur tout ce qui est technico-technique, les gens parlent surtout de ça, alors que ce n'est pas l'important du tout. Ça, c'est le comment. Ce qu'on a vu avant, c'est le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut, nos intentions. Mais on va quand même passer rapidement sur les patterns tactiques. Les patterns tactiques, c'est se dire, par exemple, que toutes les classes ne sont pas égales. En Java, en C#, on a classe et on fait tout avec classe. Mais il y a des classes qui sont de différentes natures. Il y a des value objects qui sont des classes dont l'égalité n'a pas spécialement d'importance, à condition que si tous les champs sont les mêmes, alors on dit que deux classes sont les mêmes, champ par champ. On les fait aussi, donc c'est vraiment champ 1 égale champ 2 égale champ 1 de l'autre, et champ 2 égale champ 2 de l'autre, et ainsi de suite, champ par champ. C'est par contre des classes qu'on les fait aussi immutables, absolument, c'est important, mais c'est pas, l'identité est plus importante que l'immutabilité. Mais on les fait immutables aussi, parce que c'est toujours bien de faire tout immutable, de toute façon. On ne met pas de getter setter, parce que ça, c'est quasiment toujours mal de les mettre. Surtout les setters, c'est sûr, les getters, ça pue un peu. Un toString clair, et c'est pas anémique, c'est des classes qui font du travail. C'est des classes qui vont faire le boulot, c'est pas des transporteurs de data. Donc on le veut en DDD, on n'aura en général pas un domaine modèle anémique et des services à côté qui font tout le boulot. On va localiser comportement et data ensemble, comme en bon vieux modélisation objet. Et donc ici, c'est une classe qui représente un décalage de jours, ajusté ou pas sur les jours ouvrés. C'est aussi simple que ça. Et donc on lui passe une date, il donne l'autre date, il fait le boulot. Cette classe fait le travail. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de getter d'ailleurs. Je lui donne le travail, elle le fait. J'ai même pas besoin de savoir comment sont les champs à l'intérieur. Bon, ça, c'est pas réellement nouveau. Par contre, on pourrait dire que c'est un pattern emprunté au langage fonctionnel qui ramène un style de pensée dans les langages qui ne le sont pas fonctionnels, comme Java, et qui permet aussi de penser à l'immutabilité dans des langages qui ne l'encouragent pas, comme ceux qu'on utilise au quotidien en général, malheureusement. Donc, les entités, c'est ce qu'on utilise, c'est ce que j'utilise, et ce que dans la communauté DDD, on utilise par défaut. Tout ce qui peut être value object, c'est toujours mieux que ça le soit. Pour le reste, il y a les entités et les domaines de services. Une entité, c'est quand il y a une identité arbitraire qui reste vraie dans la continuité, même quand les objets changent. Ici, on a quelqu'un, une personne, ici aussi, qui, dont l'état civil reste le même, alors que tous les atomes se renouvellent au cours de leur vie. On n'est vraiment pas les mêmes atomes d'un jour à l'autre. On n'est même pas les mêmes, on n'a même pas les mêmes croyances, on n'a même pas, d'à peu près tous les points de vue, on est différents. Sauf que notre état civil reste le même et garde notre identité constante au cours de la vie. Vu comme ça, on est une identité. On a une identité arbitraire, donc on est une entité. Si par contre vous regardez d'un point de vue biologique, ben en fait on n'est qu'un paquet d'atomes, et le paquet d'atomes, ben il est égal à un autre paquet d'atomes ou pas, et là on est à nouveau des value objects. Donc ça dépend de comment on regarde, c'est pas intrinsèque aux choses. Ouais, bon, en gros, vous avez une clé primaire. Dans ce contexte où la clé primaire est importante, vous êtes une entité. Mais alors faites gaffe quand même, parce qu'il y a beaucoup de value objects, quand on les met en base, elles ont besoin d'une clé primaire juste pour être en base, et même si elles n'en ont pas réellement besoin en termes d'identité forte. Mais bon, prenez pas non plus trop de temps à choisir si c'est l'un ou l'autre, c'est même pas très important, et puis de toute façon, il n'y a pas de vrai ou faux. Mon conseil, c'est faites value object par défaut, et seulement si ça ne marche pas, alors vous avez une égalité sur l'ID à la place. Il y a un troisième cas, c'est le cas où on s'en fout complètement de l'identité, et c'est le cas d'un domaine service. Alors, à pas confondre avec les services au sens microservices, qui sont des unités de déploiement et d'API. Là, on est domaine service, donc c'est un composant à l'intérieur d'un domaine modèle, on est dans le beaucoup plus petit. Les domaines services, dans leur identité, on s'en fout. Et la définition, d'ailleurs, c'est ce qui serait ni une valeur ni une entité. Donc en fait, oui, on botte en touche. De façon concrète, quand même, les services, c'est ce que vous injectez par Spring. Alors que les value objects et les entités, vous faites new, parce qu'ils circulent et qu'on en manipule des millions au fil du temps. C'est ce qui circule dans vos tuyaux. Alors que les services, c'est les grosses machines qui sont autour des tuyaux et qui font des trucs sur les tuyaux. Donc il y a quand même aussi, dans les patterns tactiques, le fameux repository. qui n'est pas qu'un DAO renommé. Le repository dans DDD, c'est un pattern qui permet d'avoir un langage métier dans mon côté domaine, au-dessus, alors que l'implémentation est technique en dessous. Pour prendre un exemple concret, j'ai bien un DAO qui doit faire un accès à une base, mais DAO, machin DAO, c'est moche, je ne veux pas ça dans mon métier, ça ne fait pas partie de mon langage métier. Donc je vais le déguiser avec sa correspondance métier du côté métier. Et si j'avais ici un DAO sur une liste d'items, ben côté métier, ça s'appelle un catalogue, ou peut-être un shopping cart aussi, dans ce cas-là, ça dépend. Les métiers, souvent, ont des vocabulaires précis pour les choses. Une liste d'emails, ou le DAO de tous les emails, souvent, ça s'appelle un contact book, dans la vraie vie. La liste des produits, ça s'appelle un catalogue. La liste de mes achats passés, ça s'appelle un order history. Donc voilà, l'intention du langage, c'est ce qui va permettre de trouver c'est quoi le mot qui est important ici. Et ensuite, je vais l'implémenter par un DAO ou un adapteur vers un DAO, mais dans un autre module, qui sera le module où je mets tout mon bruit technique, alors que là, je veux que du langage métier. Donc en fait, c'est un moyen d'obtenir cette séparation et cette absence de pollution, cette séparation technique versus métier. Donc quelque part, oui, c'est un déguisement. Le pattern repository, c'est avant tout l'idée d'un déguisement. Bon, il y a une petite idée qui va avec, c'est qu'on ne le fait pas à la même granularité. Ce n'est pas forcément table par table, mais ce sera pour tout un agrégat ensemble. Si vous faites du Mongo et des bases orientées documents, vous le faites, on aura un repo à l'échelle d'un document entier. C'est-à-dire vous manipulez un paquet de trucs, une grappe d'objets, et vous manipulez, vous le sauvez et vous le chargez comme un seul morceau. Et save, save et load, on ne les voit pas ici comme sur l'interface. Ça se passe seulement là, et ce sera la technique qui s'en occupe. Ici, on n'a pas besoin de savoir les questions de persistance. Donc Eric dit que le pattern repo, il donne l'illusion d'une collection en mémoire. Si vous développez en TDD, d'ailleurs, vous commencez comme ça. Vous commencez avec une liste en mémoire ou un dictionnaire en mémoire. Et seulement quand ça marche bien avec vos tests unitaires, alors vous ajoutez le lien vers une vraie base et toute la complexité qui va avec. Ça veut dire que quand le métier est vraiment la chose la plus dangereuse et la plus difficile à réussir, on commence par le domaine modèle, indépendamment de tout le reste, et on ignore les questions de persistance pendant un certain temps. Un certain temps, c'est pas très long quand même, hein, parce que si vous attendez plus d'un mois, quand vous allez intégrer à votre base, vous risquez de constater des tas de problèmes que vous auriez peut-être aimé connaître avant. Mais ça veut dire quand même que c'est pas la première décision. ça veut dire aussi qu'on prend les décisions techniques quand on a plus d'infos sur comment on s'en sert. C'est quoi les patterns d'écriture? C'est quoi les patterns de lecture? Et ça permet de mieux choisir la technologie qui va le mieux pour ces patterns d'utilisation. Ça, c'est important. Enfin, ça paraît un détail, mais c'est important. Le repository, c'est bien, fondamentalement, mais c'est juste pas le truc le plus important de l'univers, et c'est pas le... Eric Evans n'a pas écrit un livre pour nous parler du repository. Bon, je sens que là, je vous assomme un peu, donc c'est l'occasion d'un petit chat qui arrive juste à point pour alléger... On n'a pas de bouteille d'eau. Non, on n'a pas de bouteille d'eau. Et donc, ça m'amène au dernier point, qui est peut-être le plus délicat, mais c'est aussi le plus utile parmi toute la boîte à outils, c'est ce qu'on appelle strategic design. Alors, ça veut dire quoi, stratégique? Ça veut dire une histoire de temps long, une histoire de dans la durée longue. Et le pattern stratégique qu'Eric a vraiment inventé et qui est vraiment l'innovation du bouquin Domain Driven Design, c'est le bandit de contexte, la notion de bandit de contexte. Qui a déjà entendu ce mot? Même pas entendu une fois? Si, un petit peu. Ouais, oui, vous n'osez pas lever la main. Mais... Et donc la définition est là, je vous laisse la lire et la comprendre. Non, je rigole! C'est beaucoup trop compliqué! Aucune chance de le comprendre comme ça. Hein. Aucune chance. Donc je vais tenter une autre approche, avec des exemples par exemple. Imaginons une start-up qui vend des produits sur Internet et qui donc a une classe client, une classe customer. Et bien sûr, j'ai besoin de son adresse. Donc j'ai 3 champs d'adresse. Et puis, donc ça, c'est le début de l'histoire, tout va bien. Puis au bout de 3 mois, on a notre premier client professionnel et oups, il faut une billing address différente de la shipping address. Bon, bah, je sais, on va modifier le moins possible. Hein. On va ajouter un flag et avec une série de 3 champs et le flag qui dit quand c'est les mêmes ou quand c'est pas les mêmes. Donc ceux-là, des fois, en général, ils sont vides, mais des fois, ils sont remplis quand c'est différent. Normal, hein, vous l'avez fait? Et puis, bah, il faut le code qui va avec, hein, c'est-à-dire if, flag, alors je prends là, sinon je prends là. Et puis ça, un peu partout. Ah! Vous me voyez venir. Donc, bah, c'est pas top, hein, c'est pas top. Tout va se mélanger progressivement, là, on est en train de faire un gros bazar, en restant poli. La solution donc à ça, c'est une solution qui marche vraiment et qui est ultra efficace, c'est la notion, ce concept de bandit contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais encore me poser la question, est-ce que ça parle de la même partie de mon métier? Est-ce que ça parle du même domaine ou sous-domaine? Est-ce que la question de l'adresse de livraison et d'adresse de facturation parle du même domaine? Clairement non. Ah bah donc je vais séparer alors. Et ça donne quelque chose comme ça. J'ai mon client, et puis je vais représenter quelque part l'équivalent de mon client d'un point de vue comptable, et on appelle ça un compte, et l'équivalent de mon client d'un point de vue livraison, et on appelle ça un destinataire, récipient en anglais. Et je mets l'adresse dans chaque, la même adresse, les mêmes 3 champs adresse. Parce qu'au début, là, tout de suite, c'est ma compréhension du problème, c'est que j'ai besoin des mêmes champs adresse. Et en général, quand un client s'enregistre, il met la petite case « j'ai la même adresse de livraison que l'adresse de facturation dans sa GUI ». On ne lui demande pas de la rentrer 2 fois quand même, mais la GUI va recopier les mêmes datas ici et là. Et là, vous dites « duplication, try !» Et moi, je dis « non, c'est... enfin oui, bien sûr, mais c'est pas grave. » Parce qu'on ne parle pas vraiment de la même chose. On est dans des contextes différents, on est dans des métiers différents. Ce qu'on voit, c'est que le vocabulaire a changé, effectivement, d'ailleurs. Client devient compte et récipient. En plus d'être client, client c'est dans la partie achat proprement dite, je suis dans trois domaines qui deviennent 3 contextes, puisque j'applique cet alignement, disant domaine devient contexte. C'est pas 100%, mais c'est 99 quelque chose pour cent. Ça marche presque toujours. Je fais mes bandits de contexte alignés sur mes domaines. Et ça, c'est l'heuristique classique d'alignement. Donc on l'a déjà dit, des nouveaux noms. Alors ces nouveaux noms, ce qu'ils ont de remarquable, c'est que dans le langage courant, on peut les prendre pour des quasi-synonymes dans une phrase. Dans une certaine phrase, on peut dire « Ouais, alors quand le client se connecte, alors ensuite et l'autre répond « Oui, oui, et donc j'enverrai au récipient, machin », et on sait qu'on parle de la même chose. Parce que les humains, on est très forts à résoudre les contextes à la volée, mais les machines, pas du tout. C'est pour ça que si on veut vraiment être formel, on doit faire l'effort de préciser le contexte pour quand on le met dans du logiciel. Donc à l'inverse, si vous parlez comme ça, si la conversation commence là, puis qu'elle embraye là, et puis qu'encore quelqu'un répond là, ben, ça, le fait d'avoir des quasi-synonymes, c'est une question à poser, qui va vous suggérer des contextes. On peut trouver des contextes par le langage, en suivant les indices du langage. Les presque synonymes sont des indices. Ça, j'ai déjà dit, donc les valeurs en valeur, le mécanisme manquant, c'est les valeurs par défaut, pour retrouver le même confort que si c'était le même champ. Et tout ça, donc, ça ressemble à la duplication, mais la duplication, ben, c'est pas toujours bien. La duplication, c'est pas toujours mal. La duplication, on apprend on apprend dry, on dit il faut réduire la duplication. Mais ça veut dire quoi, duplication? Ça veut dire aussi couplage. Si vous prenez deux choses, vous les rassemblez, ben maintenant, vous avez vos deux côtés, dépendent d'une même chose, et si cette chose change, les deux sont impactés. Ou s'il y en a un qui veut changer, mais qu'on peut pas à cause de l'autre, et ben on est coincé. Et c'est là où on parle vraiment de stratégique. Parce que stratégiquement, si on attache des trucs qui évoluent différemment ensemble, ils ne peuvent plus évoluer indépendamment, différemment comme ils devraient. Ils ont des menottes. Ils ont des chaînes aux pieds. Imaginons l'évolution maintenant de nos champs adresses d'un point de vue billing et d'un point de vue shipping. Comment ils vont vieillir? Ben, d'un point de vue facturation, ce qu'on appellerait adresse, ça va évoluer pour des considérations d'adresse fiscale, par exemple, de TVA. Alors que d'un point de vue shipping, ça va évoluer plutôt d'un point de vue livraison réelle, digicode, heure de disponibilité. Là, ça évolue vraiment pas sur les mêmes forces. Le problème, c'est que quand on démarre, on voit pas ça. Quand on a peu d'informations et qu'on a peu compris au début, on croit que tout est pareil. Donc on se fait avoir par des coïncidences, mais qui sont juste liées à notre manque de connaissances et de familiarité sur nos métiers. À noter aussi que la relation, elle n'est même pas one-to-one entre tout ça. On peut très bien avoir un seul client qui va en fait livrer, qui aura plusieurs comptes, et qui peut aussi faire livrer à plusieurs endroits, et bien sûr faire livrer en plusieurs fois. Donc en fait, on peut avoir, quand vous regardez un vrai problème et qui se développe dans le temps en complexité, on n'est même plus en relation directe. Donc l'équivalent d'un client, c'est même pas un récipient, mais c'est peut-être plusieurs. Un exemple concret de tout ça chez Amazon, bah Amazon est venu au bandit de contexte sans le vouloir. Parce qu'ils avaient des tels besoins de scalabilité que c'est les besoins de scalabilité qui ont défini des contextes de fait. C'est intéressant aussi. Les besoins de scalabilité sont très très corrélés avec la façon dont on fait les métiers. Bien sûr, un catalogue, il faut beaucoup plus de visites qu'il peut avoir des millions de visites par jour, alors que le panier d'achat, on ne fait pas des millions de mises en panier d'achat chaque jour. On en fait malheureusement beaucoup beaucoup moins. Et c'est des informations importantes. Les problématiques de quality attribute, de non-functional specification dépendent des domaines. C'est donc une bonne idée d'aligner tout ça. Entre parenthèses, la recommandation, ici, on a des modèles différents aussi dans chaque contexte. Catalogue, c'est là où on a un livre qui ressemble plus à un livre, mais d'un point de vue recommandation, un livre, c'est jamais que des ID achetés en même temps que d'autres ID. Et donc, quand vous regardez tel ID, on vous dit, bah, les gens qui ont acheté ça, ils ont souvent acheté aussi les autres ID à côté. On est dans une modélisation qui n'est juste des ID qui vont ensemble. On n'a même plus de livres, on ne reconnaît même pas les livres. Et la recherche, bah, c'est un modèle qui est à l'envers. La recherche sur le web, c'est vous avez le web avec des pages pleines de mots, et Google, il l'inverse avec son index inversé, avec des mots pleins de pages, qui référencent des pages. On inverse le modèle. C'est ce qui fait que la recherche est quasiment toujours, elle doit être un autre bandit de contexte, puisque c'est une autre façon de voir le monde. C'est une façon inversée de voir le monde. Pourquoi les bandits de contexte sont utiles aussi? Bah parce que c'est une façon de découper la complexité. Vous avez quelque chose dans la vraie vie qui a plein de dimensions, par exemple 3. Mais si vous en avez besoin, si à un instant donné, vos use cases n'ont besoin que de 2D comme ça, ou dans d'autres cas de 2D comme ça, vous n'avez pas besoin de le modéliser en 3D. Deux modèles 2D suffisent. Alors, est-ce que deux modèles 2D, c'est plus simple qu'un modèle 3D? Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est une possibilité de le séparer qui peut être plus simple, et si elle est plus simple, faites-le. Donc une façon de le voir dans votre code, c'est de regarder bah, c'est quoi les groupes de champs qui sont toujours utilisés ensemble. Et si vous arrivez comme ça à trouver des ensembles disjoints, bah, ça suggère des contextes de fait dans votre code. Donc les groupes de champs utilisés ensemble par des paquets de méthodes peuvent vous donner des indices. On pourrait le faire par clustering. Des bandits de contexte, c'est des modèles différents, ça peut même être des technologies différentes, y compris des technologies de stockage, et là on arrive à l'idée de polyglotte persistance développée par Martin Fowler. Par exemple, un OSQL pour le catalogue en lecture seule, par exemple, La recommandation, ben, on le fait en batch avec peut-être des technologies spécifiques orientées à tout ce qui est algo de recommandation, peut-être de type graph, je ne sais pas, je bluffe, je n'ai pas regardé de près. Le shipping, le shopping cart, ben, une bonne vieille base Oracle, parce que s'il y a un problème sur les sous, ben, on ne veut pas qu'on puisse nous critiquer. Tout le reste, on prend la techno qui va mieux. La recherche, ben, Elasticsearch, on ne réfléchit pas, boum, Elasticsearch, c'est évident. Et de la même façon, eh ben, on peut décider de dire que mes bandits contextes, je les aligne sur des équipes. Alors attention, ça peut être une proposition d'alignement très différente des feature teams. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que je préfère qu'une équipe fasse de A à Z ou qu'elle soit ultra compétente sur un bandit de contexte? Ça, c'est un choix à faire. Parfois, vous avez de la chance, vous avez les deux. Mais il y a des cas où ce sera orthogonal et ça ne correspondra pas du tout. Oui, mais alors si je coupe tout en petits bouts, comment je fais pour avoir une expérience utilisateur intégrée et cohérente? On fait du mash-up. Toujours au bluff, hein, là, si j'ai pas été vérifié, mais c'est Amazon est découpé, ultra découpé. C'est peut-être encore plus découpé que ça, en vrai. Mais votre page Amazon, qui donne l'impression qu'Amazon est un, en fait, elle rassemble des petits bouts qui sont éparpillés en des dizaines de morceaux, dizaines de services derrière. Vous avez le pricing ici qui vous fait tous les prix. Et qui peut, les prix, c'est important de le séparer. En général, c'est saisonnier, ça change. Il y a mille façons que le prix change différemment des prix catalogue. Le catalogue, proprement dit, il serait plutôt ici. Les images, elles sont sans doute dans un CDN à part. C'est-à-dire qu'en fait, on a été jusqu'à extraire un bandit de contexte spécial, tout ce qui est iconographie, le bandit de contexte de l'iconographie, par exemple. La recherche, bien sûr. Le panier d'achat, en haut, en debout. La wishlist, évidemment, ça n'a rien à voir, c'est un truc à part. La marketplace, alors là c'est une autre entreprise. La navigation et la recherche, qui sont encore deux choses différentes, avec des équipes dédiées, ou en tout cas des savoir-faire dédiés, des experts produits dédiés à la navigation, comment je classe mes produits. Et donc, on peut le faire évidemment dans l'aiguille au dernier moment, mais pour des questions de perf, c'est fréquent de le faire avec un service front qui fait ça en amont et qu'on a un read model qui va pré-agréger pour améliorer. Ou GraphQL ou des trucs comme ça, mais ça, je n'ai pas essayé. Et puis, par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous ces services, tous ces bandits de contexte, tous ces morceaux de métier, ils sont à peu près indépendants. En général, une feature, elle tombe à un endroit et pas à moitié sur deux. C'est ce qui fait que c'est un bon découpage. Par contre, elles ne sont pas complètement indépendantes. Elles sont peut-être indépendantes à 90%, mais il y a toujours un petit lien. Par exemple, la recommandation a besoin des achats passés de tout le monde pour s'alimenter et pour se mettre à jour. Oui, les recommandations, ça vient des achats des autres avant. Et donc, comment on fait pour... combien de temps on peut accepter avant de rafraîchir la recommandation à partir des achats? Est-ce qu'une seconde, ça suffit? Quelqu'un achète, et aussitôt, il faut que la recommandation soit à jour. Ça suffit, je pense. Est-ce qu'on ne peut pas même relâcher un peu? Une minute? Combien? Jusqu'où on pourrait aller? Un jour? Je pense qu'un jour, ça marche encore. Hein. C'est-à-dire que là, un bon vieux batch pourrait faire l'affaire pour synchroniser. Et donc, le mot-clé ici, c'est que les contextes, bien sûr, on ne veut pas qu'ils soient... La pire des idées serait qu'ils soient transactionnellement consistants. Ce qu'on veut, c'est la consistance à terme, en anglais, donc « eventual consistency ». C'est-à-dire que chacun fait ses transactions de son côté et termine son boulot. Et donc, un achat de plus, un achat de plus, un achat de plus. Et puis, séparément, il y a un mécanisme de synchronisation qui peut être instantané ou qui peut être très long. Un batch journalier, c'est un exemple de long. Instantané, c'est que vous mettez un bus qui va alimenter. Mais même un bus très rapide, il alimente en 10 millisecondes après, on a mis à jour. Mais 10 millisecondes après, c'est toujours beaucoup plus confortable que transactionnellement consistant. Et donc, on relaxe aussi le couplage temporel entre les morceaux. Ils n'ont pas besoin de... Ils sont évidemment pas liés dans une transaction distribuée. Ça ne marcherait absolument pas. Enfin, c'est une mauvaise idée, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ce système. Donc, bien sûr, il y a un petit lien derrière. Mais c'est quand même tout ça. Ça nous permet de nous rendre la vie plus facile avec des opportunités de séparer les morceaux. Et tout ça, ça nous donne plein d'opportunités pour faire des décisions différentes et même des équipes différentes et évoluer des modèles qui seront les mieux possibles dans chaque zone. Et c'est la fin de cette conférence, en fait. La fin de ma présentation sur TDD. Mais j'ai un petit récap à faire pour terminer. Du coup, d'après tout ce que j'ai dit, est-ce que ça a du sens de parler de framework DDD qu'on pourrait télécharger? Non? Oui? Non? Bien vu. Est-ce qu'il y a un langage préféré pour faire du DDD ? Langage ?
Oral.
Oral ? Oui, carrément, ouais, c'est sûr. Alors, par contre, il y a quand même des langages de programmation qui sont plus handicapés que d'autres, ou à l'inverse, plus faciles que d'autres. Par exemple, je reste épaté quand je vois des exemples en F#. Le rapport signal-bruit est excellent, mais vraiment excellent. Il n'y a presque pas de bruit du tout, comparé à du Java ou du C++, encore pire. Est-ce que DDD, c'est pour vous ? Alors, j'ai un petit test d'auto-assessment là, pour savoir. Si votre passion dans la vie, c'est plutôt cache distribué, ben là, c'est plutôt non, la réponse. Si votre passion dans la vie, c'est plutôt extreme programming, la réponse sera plutôt oui. DDD, ça s'inscrit dans extreme programming. Eric Evans était un early adopter de extreme programming. Il venait aussi du groupe des small talkers, comme tout le monde, en XP. Tout ça, ça va ensemble, et ça va bien ensemble. Comment aller plus loin ? Lisez les bouquins d'Eric Evans, mais lisez aussi les bouquins de Martin Fowler. Essayez l'event storming, et si vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est l'occasion d'aller voir ce que c'est. Et avec tout ça, je pense que votre vie peut s'améliorer et tout ira bien. Merci de votre attention, je reste dispo pour des questions, et sinon, bon appétit. Ah. Ouais. De l'eau, ça dit. La classe. Question ?
On parle beaucoup de DDD et event storming justement, et c'est marrant d'en entendre parler tout à la fin. Est-ce que aujourd'hui, event storming permet d'accompagner l'appropriation du DDD ?
Tout à fait. Alors, je répète la question. On parle beaucoup de DDD avec event storming. Est-ce que ça permet l'appropriation de DDD ? La réponse est un gros oui. Donc j'ai mentionné BDD comme un moyen de démarrer qui est très puissant. Event storming est un autre moyen très puissant. C'est pas magique non plus, hein, mais c'est quand même très efficace. En particulier parce que c'est aussi un outil de communication pure, l'event storming, même hors DDD. Parce que les événements, j'ai dit la value object, machin, il y a trois types de classes, mais les événements, c'est une quatrième qui est apparue après le livre. Les événements, ils ont une qualité, c'est qu'ils sont factuels. Ils décrivent quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas contestable. Et donc, en termes de discussion, en utilisant des exemples de process sur un mur, et en les dessinant avec des post-it sur le mur, et en se focalisant d'abord sur les événements, on arrive à un taux de consensus qui est quand même le meilleur qu'on arrive à faire. Donc ça rejoint un petit peu, hein, c'est BDD, Event Storming, ça va bien ensemble aussi. Et donc, collaborativement sur le mur, les événements sont un excellent média pour mettre en évidence qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, et de quoi on parle, et de quoi ça parle en général. Et mieux que ça, ça peut suggérer les bandits de contexte. Enfin, en fait, Alberto est en train d'écrire un livre que, d'ailleurs, il faudrait que je mette à jour la presse et le mentionner, parce que c'est effectivement une chose importante. À certains moments, sur votre event storming au mur, si vous groupez les post-it qui parlent d'un certain sujet, tout ce qui est discounting, là, tout ce qui est anti-fraude ici, tout ce qui est éviter un certain risque par là, bah, ça suggère des contextes. Donc oui, merci pour la question, c'est un point important. D'autres questions ? Qui veut essayer ? Qui veut essayer un word cloud, par exemple, sur son code ? Avec une petite moulinette de... Ouais. Ah si, rien que ça, je serais déjà content.
Comment tu fais quand tu sors la donnée soit vers une base ou soit vers une API externe ? Tu recrées un DTO ?
Le DTO a une place, ouais. Le DTO, par contre, c'est une classe, c'est encore un autre cas d'usage d'une classe. C'est une classe qu'on utilise comme un document, d'accord, en vue de le serialiser. Le DTO représente le JSON, c'est le JSON version Java, le DTO. Ce n'est pas une classe d'un domaine modèle, c'est une classe de transfert de data. Pour le coup, elle est anémique. C'est une classe dont la seule but dans la vie, est la raison d'être de cette classe, c'est d'être serialisée ou d'être désérialisée. Mais elle ne représente rien d'autre. Donc, pour parler à des bases, alors il y a deux questions. Il y a le repository qui fait que vous avez une interface métier et quand vous l'appelez, votre code ne dépend pas de le DAO, mais quand vous l'appelez, ça appelle quand même le DAO. Donc là, il y a une inversion de dépendance. J'en ai pas parlé, mais là, on arrive dans l'archi hexagonal et tout ça. C'est-à-dire, comment faire que je puisse appeler quelque chose sans le connaître ? C'est simple, j'appelle une interface qui est chez moi. Le DAO ou l'adapteur implémente cette interface et donc ça inverse la dépendance. Quand j'appelle l'interface, au runtime, ça va quand même appeler l'implème, alors que je ne connais pas l'implème dans mon code, je n'ai pas d'import de DAO. Ça, c'est l'astuce, c'est la fameuse astuce de DIP, réviser vos patterns solides, et le DIP en particulier, parce qu'il est absolument indispensable pour faire tout ça.
Et où est-ce que tu places le mapping, du coup ?
Le mapping, je le mets dans l'adapteur. Et le mapping prend un objet du domaine modèle et le copie dans quelque chose serialisable.
Ok, ça va être un autre domaine. Enfin, pas un domaine métier, mais...
Alors ça dépend, parce que le mapping, quand ce que tu envoies peut être à ton format à toi ou il peut s'adapter au format de quelqu'un d'autre. Okay. Et là, on arrive sur les patterns de context mapping qui sont aussi décrits par Eric Evans, mais j'ai absolument pas le temps de tout couvrir. Et là, on arrive au context mapping là. Et donc la question de se poser, la question ultra importante aussi et stratégique, de dire est-ce que je me conforme à la vision du monde des autres ou est-ce que je demande aux autres de se conformer à ma vision? Ou est-ce que je traduis les deux et comme ça je garde mon indépendance et les autres gardent aussi leur indépendance? Et toute cette discussion, elle est absolument importante aussi quand on s'intègre. Et à l'échelle, donc ça devient important. Oui ?
Ça va être un petit peu moins technique.
Pas grave.
Dans un accompagnement agile, typiquement, on cherche à ce que les équipes, de temps en temps, niveau réalisation, se mettent vraiment dans un pilotage par la valeur métier. Est-ce que accompagner un petit peu une transition vers un cheminement des DD n'est pas une bonne manière aussi d'amener ?
Si, ça met dans le bon sens. Ça rend important. Le sujet est vraiment important. Et en mettant le métier au cœur, de toute façon, il se passe des bonnes choses, en général. Peut-être même qu'on n'a pas besoin de donner des chiffres de valeur sur le backlog. Peut-être même que c'est évident. Une fois qu'on a compris le risque, qu'on a compris l'enjeu ou le gain ou l'opportunité qu'on aurait à faire quelque chose, ben, le Saint Graal, on a à l'extrême, c'est le Saint Graal, c'est quand l'équipe de dev propose des idées de business au business. Et ce qui est possible, parce qu'un bon modèle métier, il a un pouvoir prédictif. Il propose des choses, juste à force de factoriser votre modèle, il gagne une certaine généralité. Et si vous n'utilisez pas toute la généralité, il y a une partie qui devient visible comme un potentiel et qui peut dire, mais tiens, en fait, il y a une configuration là, qu'on n'utilise pas, qu'on pourrait faire, parce qu'on l'a déjà dans notre modèle, elle est supportée. Ah là, ça, c'est le top du top. Ouais. Mais alors, c'est ma présentation des DD en version une phrase. C'est retrouver l'équivalent de la double compétence historique, il y a longtemps, deux compétences dans la même tête, le métier et le code, ce qui était le cas avant 1968 en gros. Retrouver ça d'une façon plus moderne et donc DDD encourage à essayer de simuler, de reproduire cette symbiose développement technique comme un seul sujet. Évidemment, à l'extrême, on parle même plus, on n'oppose plus métier et dev et on fait une équipe complète. Et donc, un exemple concret, ce serait 3 traders, 4 devs à côté, qui forment une seule équipe, et ils sont directement au quotidien, côte à côte, et il n'y a même plus forcément de rituel à faire, puisque les besoins circulent, c'est direct. Et on n'est pas pour autant dans le commando où on fait des trucs à l'arrache et complètement crado. On garde tout le savoir-faire extreme programming, par exemple, d'industrialisation, de qualité, de contrôle, de pouvoir changer ce qu'on veut, garanti par des tests. La possibilité de changer garantie par des tests, notamment, et la doc vivante avec BDD et puis toutes les autres idées que je pousse. Et tout ça, donc là, on a le top du top. Ouais. Et un bon design, bien sûr. Mais ça va avec.
Qu'est-ce que vous pensez du concept de spécification par l'exemple ?
Je suis fan, mais je ne vois pas trop de différence avec BDD. Enfin, c'est ce que j'appelle BDD au sens général. Ouais, voilà. BDD, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des petites écoles qui font semblant que ce ne soit pas tout à fait pareil. On peut trouver une nuance, mais moi, je trouve qu'elle n'est pas importante. Moi, je fais la confusion complètement. Spécification by example, c'est très très bien pour commencer DDD. Tout à fait. Et c'est peut-être même une meilleure façon de parler de BDD que de BDD lui-même, parce que BDD, pour beaucoup, ça veut dire Specflow ou Cucumber. Et on peut utiliser Cucumber comme un autre outil de test et rater complètement tous les avantages de l'approche. Les vrais avantages, c'est les Free Amigos. Mais les Free Amigos, bah là, on retombe dans DDD, en fait. Si on prend l'histoire, d'ailleurs, Dan North, il a inventé BDD en enseignant TDD et en ajoutant, en empruntant à Domain Driven Design le soin du langage et cette collaboration avec les experts métiers. En ajoutant ça dans TDD, ça lui a donné le truc hybride, BDD. Donc BDD est l'enfant bâtard entre TDD et DDD. Mais c'est un enfant bâtard qui a beaucoup de qualités. Enfin, le mieux, c'est quand vous prenez tout. Et vous prenez tous les encouragements de tout ça. Ça, c'est là où c'est le plus facile. Bon, on a fini. Bon appétit à toutes et à tous. Et je reste dispo pour des questions à déjeuner, bien sûr.